Vivre FM podcast.
Recherche et partage, jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
La maison, l'appartement, on y entre, on en sort, on y vit et de plus en plus on s'intéresse à l'impact que le bâti a sur nos vies. Alors non, on ne va pas parler Feng Shui dans cette émission, pas vraiment, nous allons nous pencher sur l'impact du bâti pour les personnes présentant un trouble du spectre autistique. Quelques murs, des couleurs, un escalier, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut sûrement dire beaucoup. En quoi le bâti impacte-t-il la vie de certains plus que d'autres? Et comment faire pour que le bâti améliore l'état de tous plutôt qu'il ne l'empire? Quelles sont les relations entre l'espace architectural, comme on dit, et la qualité de vie des personnes atteintes de troubles du spectre autistique? C'est ce que nous allons vous expliquer, c'est ce que nos invités vont vous expliquer dans un instant dans Recherche et Partage, une émission créée en partenariat avec la FIRA, Fondation Internationale de Recherche Appliquée sur le Handicap, et Fondation qui, ça tombe bien, a décidé de soutenir un projet de recherche intitulé « Impact du cadre bâti sur des sujets présentant un trouble du spectre autistique ». Bonjour et bienvenue dans Recherche et Partage. Je vous le disais à l'instant, on va parler de l'impact du cadre bâti sur des sujets présentant un trouble du spectre autistique. C'est un peu compliqué, on va expliquer ça dans un instant. En fait, c'est très simple. Et autour des micros, nous recevons Estelle Demilly, chercheuse à l'École d'architecture de Lyon.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. Mireille Lemayeux, présidente de l'URAFRA, Union régionale autisme des associations de familles Rhône-Alpes.
Bonjour.
Bonjour Mireille. Et Vincent Gerhards, je prononce mal.
Gerhards.
Ah, très bien. Président d'Autistes avec un T sans frontières, qui est avec nous aussi autour des micros, qui interviendra, je l'espère, dans la discussion que nous allons avoir à propos du projet soutenu par la FIRA et que nous retrouverons plus précisément en dernière partie d'émission pour nous parler des recherches, notamment dans le domaine des nouvelles technologies et qui concernent l'autisme. Voilà, les présentations sont faites, nous allons pouvoir démarrer et on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Et peut-être d'abord pour savoir avec vous Estelle et Mireille, d'où est venue l'idée de mener une réflexion scientifique au sujet d'un habitat adapté aux personnes qui ont des troubles du spectre autistique, comme on dit.
Donc à la base, c'est une recherche qui est née d'une volonté du Centre de ressources autisme Rhône-Alpes, qui s'est rendu compte à la fois les maîtres d'ouvrage et les maîtres d'œuvre avaient assez peu d'éléments au jour d'aujourd'hui lorsqu'ils construisent des nouveaux établissements pour l'accueil spécifique de personnes présentant des troubles du spectre autistique. Et pour répondre donc à ce manque, ils ont eu l'idée de lancer un projet de recherche donc à l'échelle nationale, d'une collaboration donc entre des chercheurs à la fois dans le milieu de l'architecture et des chercheurs psychologues cliniciens. Donc c'est de là qu'est parti ce projet de recherche face à cette création de plus en plus nombreuse de foyers d'accueil médicalisés et de maisons d'accueil spécialisées sans retour aujourd'hui scientifique a priori sur ces questions, alors que les professionnels de terrain, les familles des personnes autistes sont nombreux à penser que l'environnement physique pourrait avoir une influence sur la qualité de vie de ces personnes.
Voilà, j'allais y venir, c'est-à-dire que avant même de se rendre compte finalement qu'il y a peu de travaux scientifiques faits sur ces questions, c'est qu'on s'est à un moment posé la question de se dire que le bâti a un impact. Alors, redéfinir en un mot, parce que le bâti, ça parle pas forcément à tout le monde. On parle de quoi? On parle de l'impact des bâtiments, des murs dans lesquels on vit, de l'extérieur, de l'intérieur. Qu'est-ce qu'on précisément de quoi on parle?
Alors dans notre cas précis, quand on utilise le terme cadre bâti, on fait référence à différents paramètres du cadre spatial, tels que par exemple l'acoustique, la lumière, les matériaux, les dimensions des pièces, etc., etc. Donc vraiment tout ce qui est dans le cadre physique quotidien des personnes, leur cadre de vie habituel. Avec les différents espaces donc qui fréquentent le plus fréquemment.
Et Mireille, je me retourne vers vous là pour compléter encore cette question, mais ce cadre bâti, c'est qu'à un moment, en tant que parent, en tant qu'association, en tant que personne proche de personnes ayant des troubles autistiques, c'est assez nouveau comme réflexion de se dire voilà, ce cadre bâti a un impact de toute façon important, même si on ne maîtrise pas exactement comment et quand et sur quoi précisément. C'est-à-dire que ça fait longtemps que, par exemple, même vous, à titre personnel, vous pensez que cela a un impact?
Oui, forcément, le cadre bâti, en tout cas l'intérieur, puisque en réalité, ce qui a été étudié ici, c'est l'intérieur du cadre bâti, tout à l'heure, vous disiez, une maison, on y rentre, on en sort. On parlera de l'aspect extérieur tout à l'heure. Eh bien, cet intérieur de cadre bâti a une influence sur tous ceux qui y habitent. D'ailleurs, on le sent bien nous-mêmes. Il y a des endroits où on se sent bien, des endroits où on se sent moins bien. Et les personnes autistes ayant aussi des difficultés d'ordre sensoriel notamment, tout ce qui est d'ordre, comme disait Estelle, d'ordre acoustique, couleur aussi, donc des problèmes visuels, l'espace a un rôle important. Impact sur le bien-être de la personne. Alors une chose que je trouve importante de préciser, c'est que dans cette étude, on a surtout considéré les établissements, donc les lieux où les personnes se retrouvent en nombre, hein, d'une manière collective, donc qui se retrouvent forcément dans des espaces qui sont supérieurs, en tout cas plus grands, que les espaces qui se trouvent dans les maisons. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que ça permet d'observer les différents types de comportements des personnes qui sont toutes différentes. On parle d'autisme, mais il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Donc, cette étude permettra d'extrapoler pour des espaces plus restreints, comme des espaces d'habitat individuel, je dirais.
Oui, un mot. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de troubles du spectre autistique, c'est-à-dire qu'il y a un spectre très large d'autisme qui sont finalement très différents.
Ah oui.
Dans un projet de recherche comme le vôtre, on s'y retrouve quand même, on peut se dire, on va finalement réussir à obtenir peut-être des résultats ou à faire des études scientifiques qui concernent la population des personnes qui ont ces troubles-là dans leur ensemble.
Oui,
c'est trop large.
Je pense qu'on va s'y retrouver, sachant que il y aura aussi ce sera pas le spectre des troubles des troubles des spectres autistiques, ce sera peut-être des recommandations du spectre des personnes autistes, si j'ose dire. Donc puisqu'on va aboutir sur un certain nombre de préconisations, et celle en parlera beaucoup mieux que moi, il sera intéressant de voir qu'il y a un large panel d'items, en tout cas de questions qu'il faudra aborder pour vérifier auprès de la personne si tel ou tel aspect de la conception de l'habitat dans lequel se trouve la personne influe ou pas la personne en question.
Alors on parlait à l'instant de ces établissements,
oui,
qui ont été au cœur de la recherche avec les, oui, les résidents qui sont dans ces établissements. Un mot tout de suite aussi sur les autres acteurs impliqués dans la recherche. Dans le cadre des projets de recherche soutenus par la FIRA, on a toujours plusieurs acteurs institutionnels, universitaires, associatifs. Ici, le côté universitaire est représenté par vous, Estelle, avec l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon. Et puis, je crois, dites-moi si je dis une bêtise, l'Université de psychologie de Chambéry.
Non, c'est tout à fait ça.
Voilà, qui fait partie du projet. Pour ce qui est du monde associatif, Mireille, vous êtes ici aussi pour le représenter en partie. Il y a l'association internationale SATEDI, regroupant, oui, des personnes qui ont des troubles du spectre autistique, l'association Envol Isère Autisme,
oui, qui fait partie de l'URAFRA d'ailleurs,
qui fait partie de l'URAFRA, et justement l'association URAFRA, Union Régionale Autisme France Rhône-Alpes, et pour la partie institutionnelle, on peut citer le Centre Ressources Autisme Rhône-Alpes,
et le centre hospitalier Alpes-Isère aussi,
et le centre hospitalier. Voilà, pour bien préciser que la recherche s'est faite en partenariat avec ces différents acteurs, et que c'est comme ça aussi, Estelle, que vous avez pu aussi avoir accès à ces centres et à ces établissements dans lesquels vous avez
tout à fait
commencé ce projet. Le déroulé du projet, c'est vraiment, de ce que j'en ai vu, en trois étapes, dont une première étape qui a déjà été, qui est terminée, une étape exploratoire. Celle-là, on en est où et qu'est-ce qui s'est passé ou juste comment on a démarré et entamé ce projet?
Donc effectivement, c'est un projet qui s'inscrit dans la durée, qui a débuté en 2011 par une première phase qu'on pourrait qualifier d'exploratoire, qui a consisté en l'analyse de 20 établissements au sein desquels les psychologues de notre équipe ont évalué 148 personnes adultes atteintes du trouble du spectre autistique qui étaient prises en charge dans ces structures. Donc là, c'était vraiment pour avoir à chaque fois des renseignements qui concernaient chaque personne. Et donc l'objectif de cette première phase était d'arriver à établir des hypothèses sur certains paramètres, donc du cadre bâti, comme je vous ai cité tout à l'heure, par exemple des paramètres relatifs à l'acoustique ou à la lumière ou encore aux dimensions des pièces, l'influence de ces paramètres sur certains troubles cliniques. Donc précisément 13 domaines de troubles cliniques qui ont été évalués donc par les cliniciens de l'équipe. Et à terme, donc, on a fait différentes analyses qui nous ont permis aujourd'hui d'établir différentes hypothèses et de confirmer, a priori, que le cadre bâti et ses différents paramètres pourraient avoir une influence sur l'état clinique de ces personnes. Et donc, dans un deuxième temps, qui est le projet de recherche qu'on porte aujourd'hui. Ce qu'on aimerait, c'est pouvoir vérifier ces différentes hypothèses par la mise en œuvre de travaux dans des établissements. Donc il s'agirait pour nous de mettre en œuvre ces travaux dans un minimum de 5 établissements qui disposeraient chacun de 2 unités d'hébergement, donc on pourrait appeler d'homomorphes, c'est-à-dire qui ont des configurations spatiales proches.
On va essayer d'utiliser des mots que tout le monde comprend parce que... Et du coup, c'est concrètement, vous disiez, la première phase donc a été réalisée, elle est terminée. Qu'est-ce qu'on en a déjà un peu déduit? C'est quoi ces travaux que vous souhaitez réaliser? Des travaux qui vont être réversibles, j'imagine, qu'on va tester. Voilà, concrètement, il se passe quoi?
Donc, on a eu différentes hypothèses qu'on a posées. On a pu voir effectivement qu'a priori, les surfaces élevées ou les grands volumes auraient tendance à favoriser l'émergence de troubles. On a vu également que les pièces qui présentent beaucoup de zones de contact entre elles, donc que ce soit des contacts visuels, sonores ou olfactifs, pourraient également aussi être des espaces qui pourraient favoriser les troubles des personnes. On a également des résultats qui concernent, alors ça va être un terme encore un petit peu technique, mais au niveau de l'acoustique, des temps de réverbération élevés dans les pièces qui auraient également tendance à favoriser plus l'émergence de certains troubles. Il en va de même concernant l'acoustique pour les ambiances sonores assez hétérogènes qui pourraient également être défavorables. On a pu également voir par rapport aux espaces qui présentent beaucoup de vitrages également l'émergence de différents troubles.
Vincent voulait intervenir
là-dessus. Oui, vous souhaitiez qu'on soit un petit peu concret sur l'autisme. En fait, vous vous rendez compte que quand on dit qu'il y a autant d'autisme que d'autisteux, il faut savoir que le simple fait d'avoir une couleur qui déplaît, si la personne autiste n'est pas capable de le dire, vous allez avoir une situation de blocage et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Donc, sur des tout petites choses, et celle parlait du temps de réverbération, si ça se trouve, le son dans une pièce ne va pas convenir à la personne autiste et elle va tout à coup, sans que vous compreniez vous pourquoi, si vous êtes accompagnateur ou psychologue, sans savoir pourquoi, la personne autiste va avoir un trouble très grave. Donc, cette recherche est très intéressante parce qu'elle va partir des besoins des personnes autistes et essayer de comprendre comment on peut faire pour optimiser le comportement des personnes et diminuer les troubles. Donc c'est un truc qui est assez formidable.
Et puis comme la plupart du temps d'ailleurs dans les recherches qui concernent le handicap, on va peut-être essayer d'aider certaines personnes et puis au final ça va aider tout le monde. On reprend dans un instant avec nos invités sur Vivre FM.
11h midi, recherche et partage avec la FIERA sur Vivre FM, Blandine Lacour.
De retour dans Recherche et Partage, on parle aujourd'hui de l'impact du cadre bâti sur des sujets présentant un trouble du spectre autistique. Toujours autour de la table, Estelle Demilly de l'École d'architecture de Lyon, Mireille Lemayeux de l'URAFRA, Union régionale autisme des associations de familles Rhône-Alpes, et Vincent Gerhardt, président d'Autistes sans frontières. Pour poursuivre cette discussion, Mireille, vous, en tant que proche de personnes qui ont des troubles autistiques, vous avez déjà, on va dire, le sentiment de sur quoi pourrait déboucher la recherche. C'est-à-dire concrètement, vous vous dites déjà, il faudra éviter les grands murs blancs, les pièces carrées, il faudrait de la moquette au mur pour éviter les troubles acoustiques dont nous parlait Estelle à l'instant. Vous savez déjà un peu ça ou non? Vous vous dites, on verra.
On devine déjà qu'il y a un certain nombre de situations spatiales, je dirais, qui sont plus ou moins génératrices d'angoisse ou d'anxiété. Ça, bon, c'est pareil pour tout un chacun. Par contre, on attend avec impatience les résultats de cette recherche, sachant que, comme je disais tout à l'heure, il y a quand même autant d'autisme que de personnes autistes, et que une chose dont on n'a pas parlé, c'est aussi des comorbidités. Il y a un nombre non négligeable de personnes autistes qui ont aussi d'autres difficultés, qui sont épileptiques, qui ont des problèmes somatiques, etc. Ça complexifie, je dirais, le résultat de cette recherche.
Comment on fait d'ailleurs en tant que chercheur ou chercheuse, on peut dire, chercheuse Estelle, Mireille disait à l'instant, c'est vrai que c'est pareil pour tout à chacun dans la mesure où on est tous sensibles et impactés par l'environnement et à premier lieu le bâti. Et en même temps, c'est différent pour chacune des personnes autistes, comme ça l'est pour chacune des personnes tout court. Comment on fait du coup pour s'y retrouver dans un projet scientifique et obtenir des résultats qui puissent quand même parler au plus grand nombre ou en tout cas avoir des conséquences dans la vie des gens, parce que ce sera mieux pour elles et on l'aura déterminé scientifiquement.
Donc effectivement, c'est quelque chose qu'on a, en tout cas sur la première phase hein, du projet de recherche qui a abouti aujourd'hui, qu'on a pris en compte en évaluant en fait chaque personne individuellement. C'est pas des données de groupe qu'on a recueillies, mais vraiment des données pour chaque personne autiste. Après, c'est sûr que à chaque fois qu'on conçoit un bâtiment qui est destiné, parce que nous on travaille sur des bâtiments d'accueil, donc type maison d'accueil spécialisée ou foyer d'accueil médicalisé, qui sont destinés à accueillir plusieurs personnes, c'est sûr qu'on a la contrainte de devoir faire une réponse qui puisse être adaptée à l'ensemble des usagers. Donc après, ça peut être parfois par la proposition d'une variété d'espaces différents au sein d'un même établissement pour pouvoir permettre de s'adapter à la sensibilité de chaque personne.
Mais on sait déjà, Vincent, peut-être avec votre expérience, on sait déjà qu'il y a certaines formes de bâti ou de choses à ne pas faire dans l'habitat parce que de toute façon, ça fera peut-être pas du mal, mais en tout cas, ça fera pas du bien aux personnes qui ont des troubles du spectre autistique.
Écoutez, ce dont on est déjà sûr, c'est que quand Estelle parle des structures, enfin structures médico-sociales, c'est-à-dire des femmes, des masses, ces intitulés qui sont pas très jolis, mais enfin qui sont ceux du médico-social, c'est-à-dire les établissements financés par l'État qui accueillent les personnes handicapées et entre autres les personnes autistes. Nous, par exemple, Autisme sans frontières, on a porté un projet avec 50 enfants. Alors, 50 enfants, fort heureusement, qui ne sont pas dans un espace fermé, mais qui vont plutôt le plus possible à l'extérieur, et notamment dans les écoles. On sait déjà, quand on regarde des exemples comme celui de la Suède, que pour les adultes, il faut des petites unités. Donc, il faut des unités pour 4, 6, allez, 8 personnes. Ce qui veut dire que vous pouvez faire des populations assez homogènes, donc identifier les profils des personnes autistes, et peut-être proposer des réponses dans le cadre du bâti qui soient plus cohérentes. La difficulté peut-être dans ce projet architectural, c'est que si on demande à Estelle et à ses amis de faire un projet pour 30 gamins ou 30 adultes qui vont d'un profil modéré à léger ou d'un profil lourd à léger, là pour le coup, pour eux, ça va être un vrai casse-tête parce que vous allez trouver, si vous accueillez dans une femme un masse 20-30 personnes, ça va être compliqué. En revanche, si vous prenez des petites unités, vous pourrez avec les professionnels qui accompagnent les enfants, et il faut d'abord... Mireille Lemayeux le répète sans arrêt, il faut d'abord que ces personnels soient des personnels formés. Donc vous voyez, il y a un prérequis, c'est qu'il faut que les personnes qui accompagnent les personnes autistes sachent exactement comment faire avec cette personne. Ensuite, pour ce qui est des locaux, vous les adapterez d'autant mieux qu'ils seront moins nombreux, parce que vous saurez que les 4 enfants autistes que vous avez devant vous, ils ont pratiquement le même profil. On a fait leur profil autistique, on sait exactement à quoi ils répondent, donc on pourra apporter des réponses plus pertinentes.
Finalement, c'est simple, il vous suffit d'embaucher Vincent pour la recherche. J'ai l'impression qu'il a déjà des solutions.
Je suis maçon.
Vous voulez rebondir?
Oui, je veux juste rebondir parce qu'effectivement, nous, dans nos résultats de recherche de la première phase, même si c'est pas forcément lié directement à l'architecture du bâtiment, c'est vrai que le nombre de personnes présentes dans les pièces s'est révélé être un élément qui favorisait aussi l'émergence de troubles. Donc c'est sûr que les recommandations, je pense, quoi qu'il en soit, tendront aussi à favoriser une architecture qui permettent d'accueillir moins de personnes dans les différents espaces.
Recommandation, le terme que vous utilisiez à l'instant, c'est la troisième phase de projet de recherche soutenu par la FIRA. C'est la phase qui fera émerger des résultats scientifiques qu'on va essayer de partager au plus grand nombre et sur le centre ressources de la FIRA et ailleurs. Vincent disait à l'instant l'importance de la formation des professionnels et pas seulement dans le cadre du bâti. Mireille, vous vouliez rebondir là-dessus aussi. C'est vrai que, quels que soient les résultats de la recherche, l'important derrière, ça va être de faire partager ces résultats et puis d'être sûr que les personnes qui sont auprès de des autistes vont être suffisamment formées pour que finalement tout ça réussisse pour la vie des personnes autistiques. Parce qu'un bel environnement... Mais un mauvais accompagnement, de toute façon, ça changera rien à la donne.
Oui, absolument. Et le problème, et c'est bien pour ça qu'on bataille, nous, associations, parents, familles et d'autres professionnels avec nous, pour que les professionnels accompagnant les personnes autistes soient formés au syndrome autistique et qu'ils aient tous une formation initiale, pas que continue, que ce soit, quel que soit le type d'accompagnement, que ces formations soient adaptées à ce qu'on sait au niveau de l'autisme au jour d'aujourd'hui et respectent les recommandations de la Haute Autorité de Santé et puis de l'ANESM également. C'est très important. Sachant que aussi, ces recommandations concernant l'architecture devront être suivies par d'autres types de professionnels, les professionnels de la conception. Et là, on parlait tout à l'heure du fait de recevoir relativement peu de personnes ensemble, parce que c'était aussi un objectif d'inclusion dans la vie de tous les jours, de quel que soit le niveau des personnes, quelle que soit leur autonomie, j'aime pas utiliser le mot niveau, quelle que soit leur autonomie. Et c'est important que les professionnels de l'habitat, proprement dit, de l'architecture, puissent aussi s'emparer de ce type de recommandations.
Alors les recommandations, Estelle, en quoi cela va... Qu'est-ce que concrètement vous allez sortir comme outil? Il y aura un guide spécifique dédié pour les professionnels du médico-social ou pour les professionnels de l'habitat ou pour les deux?
Alors nous, ce qu'on veut, c'est un outil à diffusion large, hein, donc qui soit à la fois pour les professionnels de l'habitat, y compris pour les professionnels du médico-social, mais évidemment qui puisse aussi être utilisé par les usagers eux-mêmes. C'est quand même un de nos objectifs. Si donc on travaille sur, comme je vous l'ai dit, sur du médico-social, mais on souhaite que ces recommandations, elles puissent aussi être applicables pour le maintien, par exemple, à domicile d'une personne, qu'elles soient mobilisables par les familles. Donc il y aura une traduction de ces recommandations qui sera faite de sorte à être accessible vraiment pour le plus grand nombre.
C'est extrêmement important, ça, parce que quand on regarde ce qui se passe en France aujourd'hui, on parle du médico-social, parce que vous l'avez bien compris, c'est ce qui prend en charge les personnes handicapées. Mais je pense que dans l'avenir, compte tenu de la situation économique, compte tenu des contraintes, compte tenu du coût très élevé d'une place dans un établissement médico-social, je pense que ce qui est en train de se dessiner, je suis pas Madame Irma, hein, mais ce qui est en train de se dessiner, c'est plutôt qu'on va vers le droit commun. Ce qui veut dire que avec des recommandations que pourra nous fournir Estelle et son équipe, ce sera de dire bah on va s'emparer d'appartements classiques où on va appliquer les recommandations. Les recommandations qui seront dans un premier temps destinées probablement plus à des établissements médico-sociaux, donc des choses qui sont faites pour accueillir des personnes autistes. Je pense que demain, enfin je pense que toutes les associations de parents vont militer pour ça, c'est qu'on aille vers le droit commun et que par exemple des adultes autistes soient dans un appartement en pleine ville et pas dans une jolie ferme à 300 km de tout lieu habité. Donc, ce sera d'autant plus important de pouvoir appliquer des choses comme ça très concrètement à côté de chez nous, quoi.
Et puis Vincent vient de le dire, il y a l'aspect économique qui joue toujours énormément. C'est peut-être aussi pour ça qu'en termes d'accessibilité du bâti aussi, on n'avance pas beaucoup. Est-ce que ça, c'est un facteur que vous prenez en compte dans la recherche? Est-ce qu'au niveau des conseils, des recommandations qu'on va apporter, ça pourra être mis en œuvre sans qu'il y ait justement un coût excessif, sans que ce soit une barrière, un frein véritablement à une mise en accessibilité, enfin accessibilité entre guillemets dans ce cas-là, mais...
Tout à fait, c'est sûr qu'on va viser des choses, comme je vous disais, qui soient applicables. Donc, applicables par tous, mais également applicables dans les faits.
Est-ce que vous, Mireille, en tant que proche aussi de personnes aussi, que vous avez déjà testé, on va dire, à titre personnel, des améliorations, des modifications de l'environnement qui peuvent avoir des effets bénéfiques sur la santé de ces personnes?
Pas vraiment, mais après, il s'agit d'une question de bon sens, hein, je dirais, quelque part. Sachant que, pour rebondir sur l'aspect qualité, je trouve ça important, la qualité n'a pas de surcoût, en tout cas pas dans ce domaine-là. Réfléchir, tenir compte de la situation des personnes n'a pas forcément un coût. Et au niveau de la diffusion, je dirais que le plus important, c'est de pouvoir très vite faire savoir aux porteurs de projets, aux concepteurs, aux communes, aux collectivités, quelles qu'elles soient, qu'il est possible de faire beaucoup mieux. Et d'ailleurs, le troisième plan autisme parle de qualité et de qualité de quoi qu'on fasse. Ça en surcoût, ça c'est absolument évident.
Et Alain, Vincent, je vous en prie.
Une petite chose, c'est qu'il faut savoir en France que les adultes autistes sont, d'abord, ils sont très peu diagnostiqués et identifiés. Il y en a beaucoup dans les hôpitaux psychiatriques. Je ne sais pas si récemment vous avez visité un hôpital psychiatrique. On a largement de quoi faire beaucoup, 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 beaucoup mieux avec beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'argent.
Moi, je visite pas les hôpitaux psychiatriques, j'ai peur qu'ils me gardent. Mais j'ai ouï dire effectivement que c'était pas la solution idéale pour la santé mentale des personnes. On va revenir avec vous dans un instant et notamment Mireille avec une question sur l'environnement extérieur dont vous vouliez parler. On se retrouve tout de suite.
Vous écoutez Recherche et Partage jusqu'à midi sur Vivre FM, Blandine Lacour.
Estelle Demy, Mireille Lemayeux, Vincent Guérartz sont toujours avec nous dans Recherche et Partage. On parle de l'impact du cadre bâti sur des sujets présentant un trouble du spectre autistique. On va l'apprendre par cœur, hein, le titre du projet. C'est bien en même temps de répéter les choses. Et puis Vincent nous parle aussi, va nous parler en tout cas un peu plus dans cette partie d'autistes sans frontières. Mais avant cela, un mot de Mireille. Hors micro, vous nous disiez que vous êtes paysagiste conseil et notamment dans un conseil d'architecture d'urbanisme et d'environnement. Alors en quoi cette connaissance du monde extérieur et ces conseils que vous donnez peuvent être liés avec ce projet de recherche qui porte plutôt sur l'intérieur de structures médico-sociales? Quel est un peu le lien entre les deux et puis l'importance d'étudier aussi ce qui se passe à l'extérieur?
Alors évidemment, l'établissement dans lequel les personnes se trouvent, ou la maison, ou même l'immeuble, est en général dans un espace avec un espace extérieur, mais beaucoup d'établissements et la majorité a un jardin ou un parc et une interférence importante entre l'espace intérieur et l'espace extérieur. D'ailleurs, un certain nombre d'activités sont proposées aux personnes, puisque là il s'agit d'adultes au niveau d'études, ont des activités type jardinage, il y a aussi la rééducation fonctionnelle, il y a des possibilités de découverte de la nature, etc., etc. Et l'espace extérieur est un espace en lui-même et fait partie de l'habitat proprement dit des personnes et puis de leur entourage. Donc, d'une manière générale, organiser cet espace en tant que jardin ou parc est important et mérite une attention particulière du même style que celle de l'importance qu'on a donnée à l'étude de l'intérieur de l'habitat ou de l'habitat proprement dit.
Donc, importance de l'extérieur. Vincent, vous voulez nous dire un mot des recherches en cours pour des recherches qui concernent notamment les nouvelles technologies, le numérique, dans le cadre de personnes qui ont des troubles autistiques. C'est pareil, ça concerne l'intérieur, l'extérieur, l'entièreté du monde est concernée par ça, j'imagine.
On va dire que ça concerne la prise en charge d'une personne autiste et que donc ça peut concerner aussi bien l'intérieur que l'extérieur. En fait, sans refaire l'histoire, la France en était à l'âge de pierre il y a quelques années encore en matière de prise en charge d'autisme. Et on peut considérer que l'année 2012 était un petit peu l'année zéro. C'est vous dire qu'on a quand même pas mal de retard par rapport à d'autres pays. Pourquoi 2012? Parce qu'il y a eu à la fois les recommandations de la Haute Autorité de Santé qui ont, pour faire extrêmement simple, qui ont montré la voie, qui ont montré le chemin sur ce qu'il fallait faire avec les personnes autistes. Encore là, je parle des enfants. On n'a pas de recommandations pour les adultes pour l'instant. Et en plus, il y a eu une année grande cause pour l'autisme, ce qui était une manière de faire sortir l'autisme de son anonymat. Et donc, du coup, on se rend compte, là, vous voyez, on est en 2015, ça fait 3 ans, on sent que les choses avancent. Mireille Lemayeux a reparlé du plan autisme, c'est sur les rails, ça concerne les tout-petits-enfants, mais les adolescents et les adultes, on s'en occupe pas beaucoup, d'où tout l'intérêt de ce projet à Lyon. On peut pas se contenter de dire le plan autisme il est bien mais il va un peu lentement. Il faut les associations de parents ont toujours été là. Mireille a été pour beaucoup quand elle était la tête d'Autisme France pour donner des coups de pied à la fourmilière, faire avancer les choses. On est là pour faire avancer les choses pour les familles dont on s'occupe et les enfants dont on s'occupe. Il se trouve que le numérique au sens large, encore on peut détailler un petit peu, mais le numérique au sens large semble pouvoir apporter des solutions dans la prise en charge des personnes autistes. Je vais vous faire un schéma très simple. On sait aujourd'hui en France, ailleurs aussi, mais en France maintenant, que pour un enfant qui a un trouble du spectre autistique, il faut lui mettre à côté de lui un accompagnant, on va pas dire accompagnateur, un accompagnant, et au-dessus de l'accompagnant, un superviseur, un psychologue un peu confirmé, pour lui faire faire des progrès, pour le rééduquer, si vous voulez, avec son autisme, et pour lui permettre de gommer le plus possible tous les symptômes autistiques qu'il a. Il se trouve que les accompagnants ou les superviseurs, c'est très rare en France. On en trouve très peu, ils sont très peu formés. Mireille parlait de la formation. Les universités françaises forment pas encore suffisamment d'accompagnants. Et donc, du coup, qu'est-ce que peut apporter le numérique? Je vais vous donner 3 exemples. Le premier qui va parler à tout le monde, c'est les tablettes numériques. Il se trouve qu'on sait aujourd'hui que sur une tablette numérique, on peut apprendre à un enfant à communiquer. Il y a quelque temps, on se servait d'imagettes, d'imagettes qu'on scratchait sur les choses. On constate qu'une tablette numérique, on peut en mettre beaucoup plus, c'est beaucoup moins cher à fabriquer, et ça peut aider un enfant à communiquer, à demander des choses. Le deuxième exemple, c'est, on a découvert il y a quelque temps, un robot qui a été fabriqué par une société française qui malencontreusement a été racheté par les Japonais, qui s'appelle Aldébaran, et qui fabrique un petit robot humanoïde qui s'appelle Nao. Donc c'est un petit robot de 80 cm de haut, qui a des applications, une espèce de super ordinateur, sauf qu'il a une tête vachement sympa. C'est-à-dire que ça fait comme un super jouet et qui suscite un intérêt énorme chez un enfant autiste. Sauf que on ne sait pas exactement comment l'utiliser, ce robot. On sent qu'il y a du potentiel. Maintenant, il faudrait arriver à lui fournir. Alors, il dispose d'applications, mais d'applications qui sont un peu compliquées. Donc, il faudrait qu'on développe des applications plus simples, mais ça permet de travailler sur plein de domaines de l'autisme de l'enfant. Donc ça, c'est, vous voyez, un moyen numérique de rééduquer l'enfant et qui coûte... Alors, ça, je vais être extrêmement cynique, ça coûte 5000 euros un enfant. Ça coûte moins cher qu'un éducateur. Donc, si on a un éducateur avec 3 robots ou 2 robots, peut-être qu'il peut travailler avec 2 enfants. Donc, vous voyez, comme on cherche à résoudre une solution pour plein d'enfants autistes, le plan autisme, il va s'occuper de 300 tout petits enfants, 300 pendant 5 ans. Il y en a 8000 chaque année qui naissent avec de l'autisme. Cherchez l'erreur. Donc, il faut qu'on continue à explorer toutes les pistes. Le robot Nao en est une. C'est pas une clé universelle, c'en est une. Dernier exemple, avec le numérique, la supervision à distance. Je vous parlais de superviseur. Malheureusement, les enfants autistes sont pas tous au même endroit. Ils sont répartis un peu partout. Quand vous êtes sur un gros pôle urbain, vous arrivez à trouver un professionnel, et encore c'est difficile, mais vous arrivez à en trouver un. Vous habitez au fin fond de la Creuse, c'est compliqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre à disposition un moyen numérique de transmission. Pardon, je vais citer une marque Skype, par exemple, mais par Skype, vous pouvez aider un parent à commencer à s'occuper de son gamin, ou vous pouvez aider un accompagnant à bien s'occuper d'un gamin. Donc tous ces moyens-là, faudrait les développer pour donner les moyens aux familles qui sont sans solution, et Dieu sait qu'en France, il y en a énormément, leur donner une solution pour pouvoir s'occuper de leur gamin ou même de leur enfant adulte 6 ans.
Et concrètement, du coup, ça passe par quoi? C'est une volonté politique qui doit se mettre en place et se mettre en place dans les faits. C'est des projets de recherche comme ceux portés par la FIRA. Et donc, il faut faire appel aux associations, aux chercheurs, à l'institutionnel de mettre en place ce type de recherche. Qu'est-ce qui freine encore un peu aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à développer ça?
Si vous voulez, les pouvoirs publics, ils ont une caractéristique autistique. Ils sont un petit peu résistants au changement. C'est-à-dire que pour arriver à trouver une volonté politique, c'est compliqué. Vous prenez les recommandations de la Haute Autorité de Santé dont parlait Mireille Lemayeux. Il se trouve qu'une ARS, une agence régionale de santé en France, a pris les choses en main parce que son directeur a eu la volonté politique de les appliquer. C'est dans le Limousin. Il a réuni tout le monde en disant « Maintenant, on rigole plus, on fait ça. On fait les recommandations de la Haute Autorité de Santé. » Sauf que c'est une... Alors, il y en a d'autres qui fonctionnent pas mal, mais il y en a une qui a eu une volonté politique. Donc, quand vous me dites « Qu'est-ce qu'il faut ?» Il faut une volonté politique. Ça, c'est pas, on peut le trouver. Donc, le plan autisme, ils ont mis sur les rails un certain nombre de choses. Pour leur faire adopter autre chose, c'est compliqué. Donc, ces moyens numériques, ils sont pas dans le plan autisme. C'est pour l'instant les associations de parents, encore une fois, qui vont pousser. On va essayer de montrer la pertinence des choses, que ce soit dans le projet architecture de Lyon, ou nous, Autisme sans frontières, on va essayer de montrer la pertinence des robots Nao, par exemple. Et puis après, on dira, regardez, ça marche, aidez-nous.
Regardez, ça marche, aidez-nous. Et puis, regardez, déjà, c'est en train de marcher, mais il nous faut des sous pour que ça marche véritablement. Je reviens sur ce projet de recherche soutenu par la FIRA. On est dans une phase, on va dire, à mi-chemin. On n'a pas fini cette recherche. Ce qui manque aujourd'hui, clairement, c'est des partenaires qui se joignent à l'aventure et qui rajoutent un peu de sous.
C'est tout à fait ça. Donc là, on est vraiment dans ce montage de la deuxième phase du projet de recherche. Donc on est dans la consolidation des partenariats avec les établissements dans lesquels on intervient, et puis dans la recherche effectivement de financement complémentaire pour qu'un jour ce beau projet de recherche puisse et ses recommandations puissent effectivement voir le jour.
Si tout se passe bien, on est sur une échéance à quelle date pour avoir les résultats, pour pouvoir profiter de ce guide et des recommandations?
On est dans un calendrier qui nous porte vers la fin 2016, début 2017.
Donc c'est jouable, mais voilà, aux auditeurs qui nous entendent et qui ont des idées de financeurs potentiels, n'hésitez pas, leur dit-on. Mireille, un dernier mot peut-être pour conclure et sur le projet de recherche de la FIRA et sur ce que venait de nous dire Vincent. Tout ça se rejoint. Il nous manque des sous, de la volonté politique. Vous qui avez une grande expérience aussi de ce milieu-là, qu'est-ce que vous auriez envie de dire pour conclure un peu cette émission?
Moi, je dirais que un beau projet comme celui-là et ce que vient de dire Vincent, dans tous les cas, va servir absolument à toutes les personnes, qu'elles soient autistes ou pas, au niveau de la qualité de leur vie, de leur éducation, de leur cadre de vie, et puis au niveau de la qualité. Et une fois de plus, je dirais, c'est quand on va au fin fond de la recherche, et puis de la recherche justement de la qualité adaptée à notre façon de vivre à tous, on arrive avec peu de moyens à faire des choses qui sont extrêmement intéressante pour tous, moi je dirais, parce que aussi bien Nao que le numérique que tout ce qui a été dit par Vincent et tout le travail qui est fait au niveau de l'architecture va servir au niveau de la qualité architecturale, au niveau du cadre de vie, et va servir aussi au niveau de l'éducation de tous les enfants.
Alors, des moyens, une volonté politique, espérons qu'on va trouver tout ça. En attendant, nous, on va se retrouver prochainement pour des nouvelles émissions avec la FIRA, mais après peut-être le break estival. En tout cas, d'ici là, toutes les infos sont sur fira.org. Vous pouvez y retrouver des nouvelles de ce projet de recherche et les contacts si besoin. Vous pouvez trouver aussi des tas d'informations complémentaires sur l'autisme, sur d'autres sujets, sur d'autres handicaps. Vous retrouvez cette émission évidemment en podcast bientôt sur le site de Vivre FM. Il me reste à vous remercier tous les trois d'avoir été là, à vous souhaiter bonne chance dans la poursuite de ce projet et dans l'avancée des nouvelles technologies au service des personnes autistiques et au service de tous. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous.
Merci
à vous. Merci.